Radio Okapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. La RDC et le Rwanda, d'accord pour créer incessamment un avant-projet d'accord de paix. Ceci est contenu dans la déclaration signée par les deux pays vendredi à Washington. Déclaration saluée par la MONUSCO et qui porte sur 6 principes au total. Traque des policiers de circulation routière sur les artères de Kinshasa. L'opération a expiré cette semaine et 8 éléments déjà pris en flagrant délit de tracasserie. L'inspecteur général Patience Mouchidiav décide donc de poursuivre l'opération pour 15 jours supplémentaires. Et puis, l'invité de ce matin, Dr Antoine Béné Amissa, coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme dans la Tchopo, il s'est dit satisfait de la reprise des subventions par le Fonds mondial et nous présente la situation du paludisme dans la province. Madame, Messieurs, bonjour. La MONUSCO salue la signature de la déclaration des principes entre les gouvernements de la RDC et du Rwanda, signature intervenue vendredi 25 avril à Washington sous les auspices du département d'État américain. La MONUSCO relève l'engagement des participants à soutenir la mission dans l'accomplissement de son mandat, notamment la protection des populations civiles et la mise en œuvre de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. La mission dit prendre note également de la volonté des participants à protéger, faciliter et promouvoir sa capacité d'action ainsi que celle des forces et mécanismes régionaux agissant conformément à leur mandat. La MONUSCO dit accueillir favorablement tous les efforts visant à désamorcer les tensions et à renforcer la stabilité dans la région. Ceci est contenu dans un communiqué de presse publié samedi à Kinshasa. Mais quel est le contenu de cette déclaration? Askin Zibiataoro.
6 principes en total sont bien définis dans cette déclaration. Ils portent d'une part sur la souveraineté, l'intégrité, la gouvernance de chaque pays, les préoccupations sécuritaires, les cadres d'intégration économique régionale. Et d'autre part, la prise en compte du retour des déplacés internes, des réfugiés, les soutiens à la MONUSCO aux forces et mécanismes régionaux pour aboutir à un accord de paix. Par exemple, le premier principe demande au Rwanda et à la RDC de reconnaître la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'autre. Un principe qui demande à chaque partie de s'engager sur une voie permettant de régler le différend grâce à des moyens pacifiques ancrés dans la diplomatie et la négociation plutôt que par un recours à la force ou à des discours hostiles. Dans le cadre d'intégration économique, la RDC et le Rwanda s'engagent à élargir la coopération concernant des priorités communes telles que le développement hydroélectrique, la gestion des parcs nationaux, l'élimination des risques sur les chaînes d'approvisionnement des minéraux en partenariat avec les autorités et les investisseurs des États-Unis. Tous ces principes tiennent compte, entre autres, des processus fusionnés de Nairobi et de Luanda. Ils prennent aussi en considération les discussions en cours de Doha.
Pour sa part, le prix Nobel de la paix, Dr Mukwege, plaide pour une meilleure coordination multilatérale des efforts de paix en RDC. Dans une déclaration rendue publique et parvenue samedi à Radio Okapi, Dr Mukwege affirme que la multiplication des initiatives dispersées de paix n'offre pas de gage sérieux pour mettre fin aux hostilités dans l'est de la RDC, ni pour restaurer la stabilité dans la région des Grands Lacs. Dans cette déclaration, Dr Mukwege a pris l'exemple de la désignation par l'Union africaine du président togolais Faure Gnassingbé le 12 avril dernier. Pour lui, cette désignation doit être soutenue pour redynamiser et harmoniser les efforts déployés par les États et les institutions partenaires de la RDC pour consolider une sortie de crise durable. Des détails dans ce condensé d'Askin Zibiataoro rendu par Grace Hamzati.
Le prix Nobel de la paix estime qu'il ne faudra pas, à travers les efforts de paix, répéter les erreurs du passé qui ont prolongé et aggravé la crise et l'instabilité en RDC. Mukwege fait exception à l'accord cadre d'Addis Abeba signé en 2013. Pour lui, les précédents accords de la paix ont systématiquement été motivés par des intérêts à court terme, ce qui a fait par exemple la promotion des seigneurs de guerre au sein des institutions de l'État et facilité l'intégration des éléments des groupes armés dans les forces de défense et de sécurité congolaises sans obtenir la paix pour la population. En dépit de tout, Mukwege constate que la communauté internationale n'est plus apathique face à la tragédie congolaise. Il cite entre autres des mesures restrictives que les États-Unis et l'Union européenne ont adoptées contre le Rwanda, y compris la suspension de l'aide internationale. Ce qui illustre, selon Dr Mukwege, un début de prise de conscience. La grande attente de Dr Mukwege est de voir les États-Unis et l'Union européenne œuvrer de manière coordonnée avec tous les partenaires concernés pour augmenter la pression sur les acteurs de la déstabilisation et du pillage de la RDC, ce qui nécessite, d'après Mukwege, l'imposition de la paix en RDC.
Par ailleurs, la signature de l'accord de principe pour la paix et le développement signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis doit servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs. C'est ce que pense Frédéric Amani, spécialiste en relations internationales. Il attire par ailleurs l'attention des autorités congolaises pour mettre en place des stratégies pour que cet accord soit réellement gagnant-gagnant. On écoute Frédéric Amani, joint par Alain Rungushinji.
Il y a eu plusieurs accords effectivement signés entre la RDC et le Rwanda d'un côté, entre la RDC et d'autres acteurs pour justement rétablir la paix et la stabilité au niveau de la sous-région. Mais on a toujours assisté soit à des volte-face ou soit à des retournements de situation dans la mesure où, au-delà de parler de manque de volonté politique entre les acteurs, je crois qu'il y a aussi un élément important qui manque dans les accords signés, c'est cette contraintes pour amener les acteurs à respecter ce à quoi ils se sont engagés. Et nous pensons que cette fois-ci, cet accord de principe signé entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis va servir de modèle pour une paix durable dans la région des Grands Lacs et que les investissements américains puissent apporter un plus dans la croissance et le développement de la RDC et du Rwanda. Mais je vais attirer ici l'attention des dirigeants congolais de permettre à ce que cet accord ne soit pas un accord à somme nulle, mais que ce soit un accord à somme multiple et ils doivent travailler au niveau interne.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion communautaire et stabilisation, PDDRCS, a lancé hier samedi à Beni l'opération de remise des cartes d'identification biométrique aux ex-combattants. L'activité s'est déroulée au camp militaire général Chico Chitambwe, situé à 15 km du centre-ville de Beni. Le lancement a eu lieu en présence de Marie-Chantal Lumba, coordonnatrice nationale adjointe du PDDRCS, chargée des questions techniques et opérationnelles. Détail avec Martial Papi Mukeba.
Au total, 800 ex-combattants des villes de Beni et Butembo ainsi que de la chefferie de Bachou sont concernés. Marie-Chantal Lumba explique l'importance de la carte d'identification biométrique.
Parce que cette carte, ça vous identifie, ça vous libère et pour nous, cette carte vous permet de pouvoir accéder à certaines formations professionnelles. Et je pourrais vous rassurer qu'il y a des militaires, des responsables des droits de l'homme qui mènent des enquêtes pour ne pas qu'on amène n'importe qui.
Le commissaire divisionnaire adjoint Louis Segon Karawa, vice-gouverneur du Nord Kivu, a lancé un appel aux combattants encore actifs.
Qu'ils fassent quand même une comptabilité. Ils vont voir que rien n'a été fait. Au contraire, c'est plus la désolation, les freins pour le développement de la communauté. L'appel que je passe à chacun d'eux, qui revienne au bon sens.
Les bureaux conjoints des Nations Unies aux droits de l'homme de la MONUSCO Beni procèdent en parallèle à une opération de vérification pour s'assurer qu'aucun ex-combattant inscrit n'a commis des violations des droits humains. Beni, Martial Papi Mukeba, Radio Okapi.
Autre nouvelle, je vous l'ai dit dans les titres, la traque des policiers de circulation routière accusés de tracasserie dans la ville de Kinshasa a expiré cette semaine après les 15 jours prévus. Cependant, les PCR ont toujours les inspecteurs de l'IGPNC à leur trousse. L'inspecteur général Patience Mouchidiav a décidé hier de maintenir ses hommes sur les artères de la capitale. Un nouvel ordre de mission de 15 jours est signé le 26 avril pour poursuivre la même mission à travers laquelle 8 policiers pris en flagrant délits subissent déjà des sanctions. Pour ces 15 nouveaux jours, l'inspecteur général instruit ces éléments d'être davantage pédagogiques sur terrain, excepté en cas de flagrance. Le commissaire supérieur Jean-Claude Chibuyanga, directeur du bureau des investigations, en parle au micro de Billy Van Lutumba.
Nous avons pu mettre la main sur au moins 8 éléments qui étaient pris en flagrant délit de tracasserie routière. et des bavures policières. Nous les avons déférés à qui des droits sur instruction de monsieur l'inspecteur général pour qu'ils soient punis et sanctionnés conformément à la loi. L'inspecteur général a jugé bon de renouveler la même mission, mais il a voulu que nous soyons un peu pédagogiques cette fois-ci, parce que s'il faut qu'on aille toujours en arrêtant, on peut arrêter tout le monde. Alors nous allons, comme Jean-Baptiste était venu pour préparer la venue de Jésus-Christ, nous venons maintenant pour préparer les éléments de la PCR à se conformer au code de déontologie du policier. Voilà ce que nous faisons dès aujourd'hui dans toute la ville de Kinshasa. Mais c'est lui qui va s'obstiner à ne pas respecter les instructions, à ne pas obéir, suivre les codes de bon comportement, compris dans les codes de déontologie du policier. Nous sommes derrière lui. Nous n'allons pas nous fatiguer. L'inspecteur général est là pour que les services de la police travaillent conformément aux lois et règlements de la République.
Paix et sécurité au Maniema. 300 médiateurs communautaires formés ont contribué à une baisse sensible des conflits communautaires dans 6 secteurs du territoire de Kabambare. 712 cas de violence sexuelle et basés sur le genre répertoriés, dont 80 pris en charge par une clinique juridique. Réouverture progressive des instances judiciaires qui ne fonctionnaient plus auparavant. Ce sont là, entre autres, les résultats auxquels vient d'aboutir le projet d'appui à la protection des femmes et filles, ainsi que la consolidation de la paix dans le territoire de Kabambare. Ces résultats ont été présentés hier au public, représentants de l'ambassade du Japon, ONU Femmes et ministère du Genre et Famille par le RENADEF, Réseau National des ONG pour le Développement de la Femme à Kinshasa. La coordonnatrice nationale du RENADEF formule ainsi quelques recommandations et plaidoyers pour pérenniser le dit projet. Marie Zaina est au micro de Jeff Ngoy.
Le RENADEF, avec l'appui des autorités politico-administratives et des forces vives du Maniema, va poursuivre le plaidoyer pour la mobilisation des ressources, vis les besoins, les attentes et les intérêts que ce projet a suscité. Le RENADEF sollicite donc l'appui des autorités politico-administratives, la société civile ainsi que les forces vives du Maniema, afin de poursuivre à travailler au niveau interne pour la pérennisation des acquis du projet. Nous allons continuer à mener les plaidoyers pour la prise en charge holistique à travers la mise en place des cliniques mobiles, la prise en charge socio-économique des femmes et survivants de violences sexuelles basées sur le genre. Nous allons poursuivre les plaidoyers auprès des autorités politico-administratives pour la réhabilitation des routes et le désengorgement des secteurs du territoire de Kabambare.
Direction le Kasaï oriental. Samedi est décrété journée d'assainissement de la ville de Mbujimayi. À cet effet, les activités commerciales commencent vers 11h au marché central Ouitrafa, ex-Simis. Cependant, sur le terrain, des immondices ne sont pas évacués, d'autres jetés sur la voie publique et risquent de créer des maladies diarrhéiques et des mains sales dans la ville de Mbujimayi, déjà en proie au choléra depuis plus d'une année. Esther Ndalafina, reportage.
À quelques mètres de l'entrée principale du marché central Ouitrafa, au croisement des avenues Émérance et Dieu m'a donné, c'est un tas d'immondices qui vous accueille. Une heure avant la reprise des activités commerciales, déjà quelques odeurs nauséabondes dégagent. Debaba Mukadi déplore l'insalubrité du marché.
Les salons se font à l'intérieur du marché, on est en train de balayer, on prend ces immondices, on vient les jeter sur la voie publique.
Sarah Ndaya, que nous avons croisé au marché, fait le même constat.
Il y a des saletés au marché. C'est comme si on n'a pas nettoyé. Pourtant, c'est les jours de Salongo. Salongo, c'est pour assainir le milieu.
Faux, rétorque une vendeuse de légumes.
Nous avons l'habitude de balayer ici chez nous. Nous rassemblons les immondices et nous les jetons.
D'après Alphonse Lokosa, administrateur du marché Ouitrafa, le marché est grand mais moins occupé.
Vous savez la grandeur de ce marché. On collectionne quelques membres pour aller travailler là où il n'y a pas les gens. Dire que le marché est sale, non.
Signalons que la problématique de la gestion des immondices se pose également au niveau du marché central Ouitrafa. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Dans l'actualité aussi, l'inauguration hier samedi à Bounia en Ituri d'une mini-station météorologique au niveau de l'Institut supérieur pédagogique ISP Bounia. Une acquisition qui vient répondre non seulement aux besoins des recherches scientifiques, mais aussi des agriculteurs qui peuvent désormais faire face à la perturbation des saisons culturelles dans la région. Sadiki Aboubakar, reportage.
La mini-station météorologique de l'ISP Bounia est la toute première du genre dans le secteur privé en Ituri, au-delà de la station de l'Agence nationale des météorologies basée à l'aéroport de Bounia. Elle dispose de 7 capteurs de collecte des données climatiques dont les principaux sont cités par le météorologue Olivier Moutoro.
On a la pluviométrie, on a l'indicateur des niveaux, parce que quand on a la pluviométrie, on doit indiquer les niveaux, et capteurs thermo-hydro, c'est pour capter la température directe par les corps.
Le directeur général de l'ISP Bounia, le professeur Mbitsongeza, affirme que cet outil de recherche va servir non seulement le monde scientifique de la région, mais aussi les paysans agriculteurs.
Cet appareillage est là pour faciliter beaucoup de recherches, non seulement en géographie, mais dans d'autres départements aussi. Mais nous avons mission également de servir la société qui nous entoure, la société à laquelle nous appartenons. On a besoin d'informations sur le climat, le cycle de pluie, etc. Nous sommes dans une région d'agriculteurs. À partir de ce moment-ci, l'ISP Bounia qui rendra service restera utile aux agriculteurs de cette région.
La même source affirme que l'ISP Bounia a financé ses projets de ses propres fonds. Bounia, Sadiki, Aboubakar, Radio Okapi.
Actualité internationale. Vous le savez, le pape François a été inhumé hier dans la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome, dans une simple tombe souterraine portant uniquement son nom de pape Franciscus. Ses funérailles hier ont attiré 250 000 personnes, riches et pauvres confondus, venues lui rendre hommage.
L'invité.
Nous recevons Dr. Antoine Beneamissa, coordonnateur provincial dans la CHOPO du Programme national de lutte contre le paludisme PNLP. À propos du projet de lutte contre le paludisme, il s'est dit satisfait de la reprise des subventions par le Fonds mondial. Il explique que cette donation va faciliter la mise en œuvre de plusieurs activités en vue de mener une lutte sans merci contre cette maladie. Comment se présente la situation du paludisme dans la CHOPO et comment la reprise des subventions est-elle accueillie, Dr. Antoine Beneamissa, en parle avec Jacques Moukonkolé.
Docteur Bene, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes.
Vous venez de recevoir la subvention pour la lutte contre le paludisme grâce au Fonds mondial. Comment réagissez-vous?
En fait, moi, j'ai un sentiment de joie parce que à un moment donné, on a été sous gel. Le Fonds mondial avait gelé les fonds. Maintenant, comme ils sont en train de libérer pour que nous puissions sauver ta soif, la population qui est en train de souffrir de cette épidémie s'est flambée. Sentiment de satisfaction.
Quand est-ce que la subvention avait été interrompue et c'était pour quelles raisons?
C'est depuis 2023. Quand le bailleur donne le fonds, il attend aussi les frais de contrepartie. Alors les frais de contrepartie, c'est le gouvernement qui donne. Si le gouvernement n'a pas honoré ses engagements, alors c'est-à-dire qu'il ne marche pas de pair. Parce que si moi j'ai dit que je vais acheter les moustiquaires, vous allez acheter les médicaments, et que j'achète les moustiquaires, les médicaments ne sont pas là, et donc la lutte n'est pas coordonnée. Donc il a fallu qu'on puisse se mettre d'accord, comme maintenant là, le gouvernement congolais avec le bailleur, pour que nous puissions coordonner nos activités pour soulager cette population.
Et se dire que le gouvernement a donné aussi sa part.
Il a pris des engagements. Comme vous avez suivi, il a pris des engagements. Nous attendons maintenant la faisabilité pour que ces engagements soient vraiment respectés.
Et qu'est-ce que cet appui peut apporter dans la lutte contre le paludisme dans la CHOPO?
Bien, cet appui, comme vous savez que le paludisme, c'est une maladie, c'est la première cause de consultation dans nos structures, dans nos établissements de soins. Parce que sur 10 malades, vous allez voir qu'au moins 4 ou 5 malades qui sont diagnostiqués de paludisme. Et donc c'est quand même une pathologie qui est importante pour laquelle nous devons vraiment prendre en charge d'une manière sérieuse pour que nous puissions réduire les taux de morbidité et réduire les taux de mortalité. Alors, nous espérons que ça peut soulager la population dans la logistique, l'achat des médicaments, des intrants, des moustiquaires, des tests rapides, aussi certaines prises en charge pour que la prise en charge soit vraiment prise d'une manière agréable et pour satisfaire surtout la communauté.
Comment pouvez-vous caractériser la situation du paludisme dans la Tchopo?
Dans la Tchopo, la lutte, les indicateurs, ça a évolué de 4 ans pour la subvention passée. J'ai trouvé que je suis satisfait. Je suis satisfait parce que nous sommes allés au-delà, parce que réduire les taux... Bon, en fait, il n'y a personne qui voudrait perdre un membre de sa famille, même pas un bébé. Mais le nombre qu'il y a là par rapport au nombre qui était avant, c'est quand même satisfaisant. Mais notre objectif, c'est que nous puissions réduire de 70% les taux de mortalité, réduire de 50% les taux de morbidité. C'est-à-dire d'ici 30 ans, notre vision est que notre pays, notre province vive sans paludisme. C'est une vision. Mais je pense qu'avec vous, nous pouvons tous arriver à notre objectif. Mais en tout cas, nous devons conjuguer des efforts, contenir des défis que j'ai relevés. L'assainissement, parce que le vecteur vit dans cet environnement-là qui est mal assaini. Tant qu'il y a toujours ces environnements qui sont mal assainis, le vecteur va continuer toujours à se multiplier. Nous serons toujours vulnérables.
Alors, quelles sont les actions que vous comptez mener pour lutter contre le paludisme?
Ma présentation, c'était une présentation plaidoyer auprès des autorités qui nous gèrent tous par rapport à la gestion de l'environnement, par rapport à la gestion de la population. Parce que si ils mettent la main dans la pâte pour que nous puissions assainir, chaque population puisse assainir son milieu là où il vit, moi je pense que ça va contribuer.
Docteur Benet, pour terminer, quel message pouvez-vous adresser à la population?
À la population, c'est que nous puissions nous mettre ensemble. Comme j'ai dit que quand nous prévenons quelque chose, ça ne peut pas arriver. Dans la prévention, donc la lutte ici, c'est plus dans la prévention. Comme j'ai parlé de la multisectoralité, si les services de l'environnement, de l'agriculture, et même ceux qui sont intégrés au niveau des écoles, que nous puissions nous mettre ensemble, je pense que nous faisons une bonne prévention, nous pouvons réduire les taux de morbidité et de mortalité du cas lié au paludisme dans notre province.
Docteur Benet, merci.
Merci aussi à vous.
Le coordonnateur provincial du programme national de lutte contre le paludisme dans la Tchopo répondait aux questions de Jacques Moukonkolé. Par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.